Alors, où nous enregistrons cette émission, le 12 décembre 2024, une nouvelle prophétie, rappelant le mois de décembre 2012, fait jacter sur Internet, annonçant la mort par réchauffement de l'univers. Le mois de décembre semble donc être propice aux prophéties de fin du monde. Pour se changer les idées, on a survécu d'ailleurs, rappelons que les températures baissent, que le froid s'installe, que nous sommes à la meilleure époque pour boire un bon chocolat chaud sous un plaid, mais surtout, à l'époque de Noël. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire en Onde, consacré à l'histoire de cette fête attendue par petits et grands. J'ai nommé Noël. Pour m'aider à présenter cette émission, je suis aujourd'hui, et comme à l'accoutumée, accompagné du seul, l'unique, Thomas Maximilien Burkhardt.
Bonjour.
Qui va nous parler des débuts des célébrations hivernales dans les cultures humaines, n'est-ce pas ?
Oui, oui, tout à fait. Il faut savoir qu'avant d'être la fête commerciale qu'est Noël de nos jours, c'est avant tout une fête païenne. Hein. Ce qui influence la création de cette fête, ce sont d'autres célébrations qui prennent place en fin d'année. On parle ici de fêtes liées au solstice d'hiver, autour du 21 décembre donc. Des fêtes qui nous amènent la traditionnelle bûche de Noël, hein, parce qu'ils brûlaient des bûches pour célébrer le renouveau solaire. Ce sont des fêtes qui nous apparaissent dans plusieurs peuples européens, souvent pour fêter le renouveau lié au printemps et donc à la fin de l'hiver. Mais le plus important, c'est que ces fêtes, du moins celles qui marquent donc ces célébrations qui nous sont restées, sont évidemment celles des Romains, pour le sud de l'Europe, avec les Saturnales, des commémorations en l'honneur de Saturne, dieu des vignerons et des paysans, qui rapportent la lumière et la chaleur sur Terre. Puis nous vient la fête de Yule, pour les pays germaniques et du nord de l'Europe, qui sont là aussi des célébrations en l'honneur du retour de la lumière. Le mot Yule, forme anglaise du terme, signifie solstice dans les langues scandinaves.
D'autres pratiques influencent aussi la fête de Noël, comme celle mise en place par le culte de Mithra en Perse et en tant que culte à mystère dans l'Empire romain, célébrant, à la fin du mois de décembre, la naissance de Mithra, divinité alors vénérée par ce culte à mystère. Voilà. La première religion abrahamique, donc le judaïsme, et sa fameuse fête Hanouka, célébrant donc la réinauguration du temple de Jérusalem, influe sur nos célébrations actuelles en commençant à en fixer des traditions telles que le culte et la messe. Même si dans la tradition juive, ça dure bien plus longtemps que dans la tradition chrétienne. Dans la tradition juive, on parle de 8 jours de culte. Dans la tradition chrétienne, c'est un jour avec notamment une messe à minuit. Les Romains, quant à eux, fêtent réellement à partir du 4e siècle et de l'empereur Aurélien une fête de solstice à la manière des Saturnales, fixée un 25 décembre et célébrant le soleil invaincu, le Sol Invictus. La christianisation de l'Empire amène cependant à de nouveaux rites, et cela à partir du 2e siècle dans les communautés égyptiennes, notamment à Alexandrie, avec la fête de l'Épiphanie, mais aussi à partir du 4e siècle, et c'est là le plus important, précisément en 380, sous l'empereur Théodose, avec l'édit de Thessalonique, qui fait remplacer les célébrations du Sol Invictus par celles de la natalité, natalis en latin, donnant la fête de Noël. Cette date place ainsi la naissance de Jésus-Christ dans le calendrier, la Bible ne mentionnant aucunement de date pour l'événement. Noël n'est cependant pas la fête la plus célèbre du monde chrétien à ce moment-là, l'exploit revenant à Pâques jusqu'à l'époque moderne.
Et en parlant de nativité, il faut savoir que la crèche n'est une chose qui n'apparaît qu'au Moyen-Âge, notamment des crèches vivantes qui se jouent dans les églises, de sorte à compter le récit de la nativité aux Péguses et aux Pécores illettrés et analphabètes. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent les premiers banquets pour fêter la naissance du Christ. En 506, le concile d'Agde la rend même obligatoire, et en 529, cela devient même un jour chômé, férié donc, par un acte de l'empereur Justinien. Les puissants du temps ne sont pas en reste, non plus. Hein, Clovis se fait baptiser le jour de Noël, selon la légende, et en 800, ce sera Charlemagne qui se fera couronner ce même jour. C'est une fête qui se répand beaucoup à cette époque, et à la fin du 5e siècle, elle prend pied en Irlande, et au 10e siècle, elle est déjà bien ancrée en Scandinavie et en Slavie. Plus important encore, la fête devient centrale puisque la messe de minuit marque le début de l'année liturgique. En somme, c'est vraiment au Moyen-Âge que la fête de Noël prend toute son importance religieuse et se répand dans tout le monde chrétien, en plus de mettre en place les célébrations de la nativité et le rôle des rois mages.
À partir de 1517 et de la réforme religieuse mise en place par Martin Luther et Jean Calvin, qui initie ce qu'on appelle aujourd'hui le protestantisme, les traditions hivernales changent. Les rites de la Saint-Nicolas, célébrés le 6 décembre, vénérant le saint patron des enfants, apportant des cadeaux, notamment du pain d'épices et d'autres nourritures, sont notamment changés. En effet, Martin Luther se positionne dans ses thèses face au culte des saints et dit par le fait que les cadeaux ne doivent pas être distribués par le Saint-Nicolas du 4e siècle, mais par l'enfant Jésus le jour de sa naissance à Noël, les protestants et les réformistes considérant simplement que Jésus est le seul personnage non divin à devoir être vénéré, comme le disent les textes. La réforme met aussi en place d'autres pratiques luthériennes dans la célébration de Noël, comme la traduction des textes afin de les rendre plus accessibles, comme dit précédemment, à tous les pécores et pégus. Ainsi, certains chants de la messe de Noël sont traduits en allemand par Martin Luther lui-même, qui était musicien, changeant des anciens chants en latin et influençant ainsi la pratique des chants de Noël et du coup des carols anglais du XVIIIe siècle, même si certains cantiques existaient déjà un petit peu populaires, mais en latin au Moyen-Âge. Donc, chers auditeurs, si vous en avez marre d'entendre All I Want for Christmas de Mariah Carey à tout bout de champ, blâmez Martin Luther d'avoir traduit des chansons de Noël, mettant en place la tradition de ceci en langue parlée dans la culture populaire. La réforme sanctionne aussi certaines autres pratiques de Noël, allant même jusqu'à sanctionner la fête elle-même d'être pratiquée, notamment dans certains duchés germaniques, en Angleterre ou dans les Amériques anglicanes, protestantes et puritaines au XVIIe siècle, l'abrogation n'étant levée qu'en 1681. Elle est trouvant donc trop superflue. Voilà. Face à la prise d'influence de la réforme, le culte catholique, quant à lui, renforce la mise en place des crèches, dont on a parlé précédemment, représentant la nativité et mettant surtout l'emphase sur la Vierge Marie, et mettant aussi l'emphase sur une messe en latin bien prononcée et durant un peu plus longtemps. Donc tous deux, que ce soit la messe en latin ou la figure de la Vierge Marie, poursuivie par les protestants.
Et toute la symbolique autour de Noël et de la fête en elle-même apparaît aussi plus tard. Hein, le sapin, celui qu'on ne sait jamais quand sortir ni quand ranger, il nous apparaît en France qu'à partir du XVIIIe, sous influence germanique. C'est là un symbole qui découle, au même titre que la bûche, des traditions païennes. On peut en effet faire le parallèle entre les cultes germaniques autour de la nature d'un lieu exceptionnel comme le fameux Irminsul, l'arbre sacré des Saxons au 8e siècle. En France, de nos frontières actuelles, c'est en 1521 que nous est relatée la première trace de cet arbre de Noël. En Alsace, encore germanique, rien d'étonnant, l'Alsace est de nos jours, comme peut confirmer mon compère ici présent, lui-même alsacien, encore très germanisé. En bref, ce sapin, on le décorait déjà. Rien à voir avec nos décorations actuelles, il s'agissait surtout de pommes, de confiseries et de petits gâteaux.
Autre symbole extrêmement important pour cette fête, la figure très récente du Père Noël. Avant celui-ci, les fêtes hivernales se déroulaient notamment autour de la figure de Saint Nicolas, comme mentionné précédemment. Celui-ci, bien connu de nos compères donc alsaciens, mais aussi helvètes et germaniques, n'est-ce pas Thomas, lui-même helvète, est inspiré de Saint Nicolas de Myre, un évêque du 4e siècle, saint patron de plein de choses, mais notamment des enfants. Il est aussi par exemple saint patron des marins, il y a une super histoire de lui qui apparaît sur un pont de navire pour aider des marins dans une tempête, c'est assez stylé. On en a déjà parlé tout à l'heure de Saint Nicolas un peu. Certains puritains britanniques apportent la tradition de Saint Nicholas, donc version anglicisée de Saint Nicolas, avec eux lors de leur pèlerinage en Amérique à partir de 1620 avec le Mayflower et qui accoste à Plymouth. Celle-ci se développe au fil du temps, transformant le personnage de Saint Nicolas à Saint Nicholas et changeant ce Saint Nicholas en Santa Claus. La figure du Santa Claus s'inscrit de manière irrémédiable dans la culture américaine en 1863 avec une illustration de Thomas Nast représentant l'ancien saint comme un vieux barbu bedonnant et jovial, habillé tout de rouge, amenant des cadeaux aux enfants. Même si la figure du tout nouveau Père Noël se répand dans les milieux artistiques européens dès la fin du 19e siècle, notamment chez des graveurs alsaciens et allemands, le nom de Bonhomme Noël, celle-ci prend réellement racine dans les années 30 avec une très fameuse campagne de publicité de la marque Coca-Cola. Celle-ci représente le Père Noël dans un design qui est inspiré d'une illustration de 1902 de Frank Nankivell, représentant le Père Noël comme on le connaît actuellement, habit rouge, fourrure blanche, très jovial, reprenant aussi un concept assez nastien de tout ça. Et donc le présentant armé d'une bouteille de coca, très heureux.
Oui, comme dans les pubs qu'on a actuellement encore pendant les périodes de Noël.
C'est ça. Et puis, vous allez nous en parler juste après. Noël sert beaucoup à toute cette entreprise de la publicité et tout ça. Et donc, la figure chaleureuse du Père Noël ne se répand en Europe qu'à partir des années 1930, c'est très récent.
Et en parlant de la culture du pays du Coca-Cola, parlons capitalisme. J'entends déjà certains d'entre vous souffler, mais oui, c'est bien le capitalisme qui nous amène la figure du Père Noël et la version finale, entre guillemets, de cette fête. Jusque-là, en Europe, on célébrait la messe, on recevait, comme nous le rappellent souvent nos grands-parents, du charbon ou des oranges. Mais il y avait aussi certaines figures locales, comme la Befana en Italie, qui avait ce rôle de Père Noël. Ou, comme on l'a déjà dit, Saint-Nicolas pour les pays germaniques et progressivement en France. Et c'est donc, comme Thiao vous l'avait dit, avec les publicités de Coca-Cola, une boisson qui s'ancre très rapidement après la Première Guerre mondiale, que la figure du Père Noël s'assimile à celle de Saint-Nicolas et se répand en Europe. Dès lors, il s'agit d'offrir des cadeaux. Toujours plus gros, toujours plus cher. C'est une fête qui s'ancre véritablement, donc, et qui devient très vite très médiatique. Comme aux États-Unis, de nouveau, avec des figures comme Al Capone, qui fête Noël et offre des cadeaux pour élever sa cote de popularité. Ou encore, en Allemagne nazie, Adolf Hitler, qui instrumentalise la fête et la médiatise pour diffuser ses idées.
Et on a toujours ça encore actuellement. Loin de moi, l'idée de comparer le président des États-Unis actuel avec Hitler ou avec Al Capone.
Ouais, le prochain... Toute chose gardée, évidemment.
Mais c'est encore organisé à la Maison Blanche d'inviter des enfants pour Noël, globalement pour montrer que le président, c'est un type sympa, quoi.
Eh bien, aujourd'hui, la fête, elle est surtout dépossédée de son sens religieux. Il n'y a plus beaucoup de gens qui célèbrent la messe de minuit. On se concentre surtout sur son penchant matérialiste avec une sorte de course au plus gros cadeau, le plus cher. Bon, n'allez pas croire qu'on déplore la fin de cette religiosité. Nous tentons seulement d'apporter plus d'éclairage sur cette fête qui anime encore beaucoup la vie de chacun.
Exactement. Et donc, malgré le tournant laïque et capitaliste, il va sans dire qu'après la fête de Noël, beaucoup de traditions restent, antérieures même au grand tournant mis en place à partir du XVIIIe siècle, comme donc le sapin ou le Père Noël. Comme, par exemple, les manel, les petits bonhommes en pain d'épices ou en brioche, connus notamment donc en Alsace, le terme manel, c'est alsacien, ça veut dire petit bonhomme. Et eux qui viennent directement de la légende de Saint-Nicolas, ce seraient les enfants qu'a sauvé Saint-Nicolas, ou alors comme la tradition de la bûche qu'on a vu au début de l'émission, donc qui vient directement de Yule et des fêtes de solstice. Vous savez maintenant les grandes lignes de l'histoire de cette fête célébrée à l'international tous les ans. Nous nous retrouvons après les examens à partir du 17 janvier pour parler une deuxième fois de morts insolites dans l'histoire, le premier épisode étant ayant plus de ce qu'on en sait. Donc à l'année prochaine, bonne fête, bons examens et surtout n'oubliez pas,
l'histoire c'est vieux, c'est fin, ça se mange sans fin.